partout en faisant beaucoup de bruit dans le grenier. Je m'appelle Nico, je suis le meilleur ami de Pisco. Pisco, Pisco, où es-tu? Où es-tu? Je ne te vois pas.
Pas.
La poêle est drunement lourde. J'ai failli te taper avec sans faire exprès.
Vas-y, lève-la avec tes deux mains et tape-le, il arrive.
Il est tombé comme une masse. Allons-nous cacher, il y a l'autre qui arrive.
Accroche-toi bien et prépare-toi à assommer le prochain.
Je me sentais plus à l'aise pour étourdir le suivant.
Tu as vu, celui-là est tombé sur le pot de mémé.
J'y ai mis tout mon cœur. Allez, partons.
Pisco est descendu de mes épaules et j'ai caché la poêle pour trouver dans un bosquet de lilas.
Allons chercher Fifi Mouche.
D'accord, c'est alors que j'ai vu Fifi entouré par Poussel. Le boche est en train de l'embêter. Ils vont voir de quelle poêle ils se chauffent, les soldats.
Fifi, attaque, parlez tout de suite.
Regarde, Fifi est en train de mordre le zizi du soldat.
Dites à votre chien de me lâcher.
Je crois bien que je n'ai jamais vu ces deux soldats dans le coin.
Mon fidèle Fifi avait fait acte de résistance. Par contre, quand maman est revenue, elle n'était guère contente de retrouver l'apprenti dans un tel état. J'ai passé pas mal de temps à ranger mes bêtises. Heureusement, Lou était là pour m'aider.
C'était Les Haricots, écrits et interprétés par Alana, Thomas et Nathan.
C'était en été 1942, ma sœur et moi, on était partis pendant une semaine en vacances, chez Pépé Pierre et Mémé Madeleine. Un après-midi, on jouait aux cartes et Pépé gagnait tout le temps.
Écoutez, on entend des bruits de camions. J'ai un mauvais pressentiment. Allez vite vous cacher dans le grenier.
Oui, Pépé, on y va tout de suite.
Nous sommes montés sur le champ en grenier par la petite échelle au fond de la cuisine.
Qui est là? C'est l'armée allemande. Nous réquisitionnons votre maison. J'ouvre, mais je ne veux pas que vous réquisitionnez notre ferme. On devra vous la prendre de force.
Le grand-père referma la porte à clé. Le chef allemand prit une bûche qui était à côté de la porte et l'enfonça. La porte tomba sur Pépé.
Aïe, aïe, aïe! Emmène-les à la commande en tour.
Nous étions toujours cachés dans le grenier. De là où nous étions, nous pouvions voir tout ce qui se passait. À ce moment-là, Louise a vu notre cher Milou monter dans le camion sans que les Allemands ne le voient.
Qu'est-ce qu'on va devenir sans nos grands-parents?
Je voyais bien que Louise était sous le choc des derniers événements. Il fallait que je tienne le coup, que je la rassure. Les Allemands emmenèrent de force les grands-parents dans le camion. Ils bousculèrent Pépé et Mémé. Le véhicule partit en faisant un énorme bruit. Après une heure d'inquiétude, nous étions toujours dans le grenier. Nous avions tellement peur que les Allemands débarquent de nouveau à la ferme. C'est alors que nous avons vu Milou réapparaître affolé. Nous sommes descendus et le chien s'est mis à tirer le bas de mon pantalon et à aboyer sans cesse. Nous avons compris ce que Milou voulait nous dire. Il nous a conduits juste devant la commande en tour. Nous nous sommes faits les plus discrets possibles, de ne pas être vus par les gardes. Nous n'étions pas vraiment rassurés. Il fallait réfléchir à un moyen de les faire sortir de là. On pourrait prendre une corde, l'attendre pour faire tomber les gardes. Après, on pourrait leur chipper les clés.
On peut essayer, mais j'ai une autre idée.
Non, on fait comme j'ai dit. Nous sommes partis à la recherche d'une corde et sans se faire voir. Nous avons trouvé une ficelle très très fine, idéale pour notre piège. Nous l'avons attachée au pied du lampadaire. Nous nous sommes mis d'accord avec Louise. Comme elle court plus vite, elle ferait la pas. Moi, comme j'ai plus de force, je tirerai la ficelle. Louise devait provoquer les soldats. Pour cela, je lui faisais totalement confiance. L'opération ficelle était lancée.
Boche, tête de pioche. Frigolin, tête de chien. Allemand, tête de hareng.
Les Allemands ont poursuivi ma sœur, mais n'ayant pas vu la jolie ficelle que je leur tendais, ils sont tous les deux tombés à plat ventre dans la poussière. Par chance, le trousseau de clés de l'un des soldats s'est détaché et j'ai pu discrètement le ramasser. Ma sœur courait vraiment vite. Je l'ai retrouvée derrière la commande tour. Maintenant, il fallait soit rentrer dans la commande tour, soit faire passer les clés aux grands-parents. Après le tour de Louise, il est sûr que personne ne nous laissera entrer.
Polo, Polo, viens voir, j'ai trouvé quelque chose.
C'est quoi ?
J'ai une idée. Regarde là-bas, une lucarne est ouverte. On va s'assurer que Pépé et Mémé sont dans cette pièce. Puis nous trouverons de quoi cacher les clés. Et nous leur lancerons comme ça, cette nuit. Quand il y aura moins de gardes, ils pourront sortir.
Nous sommes cachés à proximité de la fenêtre, restant à l'abri des regards. Il fallait faire attention de ne pas être repéré par les soldats. C'est tout d'abord Mémé qui nous a répondu.
Nous sommes là, mes chéris. Mais que faites-vous ici ?
Nous avons récupéré les clés. Nous vous les envoyons.
Il suffisait de refaire comme Mémé le faisait en nous lançant nos goûters au-dessus du mur de l'école. Regarde, Louise, une poubelle. On va bien trouver de quoi cacher les clés pour leur lancer. Nous avons fouillé dans la poubelle. Nous y avons trouvé un morceau de pain dans lequel nous avons planté le trousseau. J'ai lancé le pain par la fenêtre. Je n'étais pas sûre qu'il entre de premier coup. Mais avec un peu de concentration, comme dit mon maître, on arrive à tout. En le rattrapant, Pépé a tout de suite compris la manœuvre.
Super les loupiots, nous allons essayer de sortir cette nuit. Rentrez vite vous cacher à la maison.
Bien évidemment, nous ne voulions pas nous éloigner de Pépé et Mémé. Nous avons désobéi. Nous avons attendu, avec Louise, la tombée de la nuit dans un buisson juste devant la commande en tour.
Je pense que les grands-parents vont avoir besoin de nous pour marcher.
Pendant ce temps, Milou se montra très sage, allongé près de nous. Pépé fut le premier à l'extérieur. Milou lui a sauté tout de suite dessus. La famille s'était enfin retrouvée.
On rentre à la maison ?
Hors de question. Montons tous dans ce train. On va se réfugier chez la cousine de Mémé, qui vit près de la frontière espagnole. Mais il n'y a que des wagons pour les bestiaux. Ne me dis pas que tu as peur des vaches.
La fin de nos longues vacances fut formidable au pied des Pyrénées.
C'était Tête de pioche, écrit et interprété par Ruben, Lucas et Mathéo.
Ce jour-là, nous étions un beau jour d'été 1942. Mon grand-père et moi, nous jouions aux cartes dans la cuisine.
Chut, Pierre, j'ai entendu quelqu'un à la porte.
Général Roth, votre maison est réquisitionnée par l'armée allemande.
Vous n'avez pas le droit.
Vous voulez vraiment vous faire fusiller, vous et votre petit-fils ?
Vous touchez un seul cheveu de Pierre et vous allez le regretter.
Otto, apporte les mâles et arrête de sourire bêtement.
Personne ne s'est fait mal, mon général. Et puis, ce n'est pas notre maison.
Tu m'énerves ! T'es sourd ou quoi ? Tu ne comprends rien ! Idiot ! Apporte les caisses immédiatement.
Pierre, va m'attendre dans la grange.
Mais c'est ici, ma chambre.
Ce n'est plus ta chambre, gamin. Maintenant, elle est à Otto.
Je veux bien la partager avec le petit.
Tu connais les règles. C'est interdit. Alors ferme-la.
L'après-midi, j'ai vu mon grand-père discuter avec Otto. Je ne comprenais pas bien pourquoi.
Tu m'as pas l'air comme les autres boches. Est-ce que tu peux m'aider à faire partir ce satané général Roth ? Je vois bien qu'il te maltraite toi aussi. Je vais essayer de trouver la résistance avec Pierre demain. Veux-tu m'aider ?
Oui, je veux bien essayer.
Mon petit-fils, il ne faut pas que tu aies peur. Demain, nous irons chercher de l'aide.
Pépé est venu me réveiller avec Otto dans la nuit.
Nous partons dans la forêt chercher la résistance.
C'est quoi la résistance ?
On te dira ça en chemin.
Nous avons marché au moins durant une heure. C'était la nuit. La lune nous éclairait le chemin. Nous n'avions pas respecté le couvre-feu. Heureusement, nous n'avons pas rencontré de troupes allemandes. J'avais peur. J'entendais plein de bruits suspects. Je pensais que les Boches allaient nous rattraper. Bon alors, c'est quoi la résistance ?
Ce sont des personnes qui inventent des plans pour embêter les soldats allemands.
Nous marchions, et d'un coup, nous sommes tombés sur le camp des résistants de la forêt de Veillon.
Que faites-vous là, vous trois ? Et surtout toi, le Boche ?
Je veux pas me faire fusiller et je suis gentil.
J'avais senti qu'à chaque fois qu'Otto se sentait agressé, il devenait un peu bêta.
Nous venons un ami vous demander de l'aide.
D'accord, je vais faire tout mon possible pour vous aider. Bon, c'est quoi votre problème ?
Nous voulons tendre un piège aux Allemands. Ils ont réquisitionné notre maison. Je ne peux les supporter.
Après avoir tout expliqué aux résistants, nous avons repris le chemin inverse. Ces résistants ne s'occupaient pas des réquisitions. Ils faisaient sauter les ponts sur la Loire. Arrivés à la maison, c'était encore la nuit. Avec Pépé, on est parti se coucher dans la grange pendant qu'Otto retournait dans ma chambre. J'étais contente de dormir dans le foin avec mon Pépé. Lui n'a pas trouvé ça très confortable. À midi, Rotz demanda à Pépé de lui préparer à manger car il avait grand faim. Pépé lui a fait un de ses ragoûts.
Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?
Vous n'aimez pas mon ragoût, général ? Pourtant, il est délicieux, n'est-ce pas, Pierre ?
Pépé m'avait fait un large clin d'œil. J'essayais d'avaler cet infâme ragoût en faisant de grands sourires. Il avait dû faire tomber la salière dedans. La guerre contre l'envahisseur de notre maison était lancée. J'eus une formidable idée afin d'aider Pépé. Je suis allée couper des orties fraîches et les ai mises dans les bottes du général.
Ah, mais qui y a-t-il dans mes bottes ? Otto, qu'as-tu fait avec mes bottes ?
Mais rien du tout, mon général. Je vous les ai cirées, comme chaque matin, rien de plus.
Et ces orties, idiot !
Ce fut alors Pépé qui eut un plan de génie, afin de faire fuir ce maudit général. Il a fait rentrer toutes nos poules dans la maison. Et comme elles étaient couvertes de puces, les soldats en ont attrapé des
milliers. Ah ! J'en ai assez de ce vieux Pépé ! Ses conditions de vie sont inadmissibles. Nous partons tout de suite.
Pour fêter notre victoire, je te propose mon célèbre ragoût, n'est-ce pas, Pierre ?
Oh oui, Pépé, moi, j'aurais bien voulu le partager avec Otto, qui était tellement gentil. Je n'ai jamais eu de nouvelles de lui, mais de temps en temps, je m'imagine qu'un jour, peut-être, je le retrouverai.
C'était Les Poules, écrit et interprété par Florian, Cécilia, Nolan et Clémence.
Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petite. C'était en 1941, plus précisément le jeudi 4 avril. À l'époque, ma meilleure amie était Ginette. On allait tous les jours goûter chez elle, mais un jour, tout bascula.
Zut, flûte, j'ai oublié mon goûter chez moi, il est resté sur la table.
Oh non, va falloir qu'on retourne chez toi. Bon, viens, on y va.
Ginette, regarde, il y a un grand soldat allemand qui attend sur le trottoir, devant chez moi.
T'as vu, il y a plein de nourriture et des bidons remplis d'eau.
Mais ce sont nos provisions que nous sommes allés chercher hier avec nos tickets de rationnement.
Cachons-nous derrière la charrette du père Richard, le vieux est de retour de sa balade de 16 heures. Il ne repartira pas de sitôt. Tu ne trouves pas qu'il est extraordinaire et beau ce soldat avec ses yeux bleus ?
Ginette, je ne sais pas si c'est vraiment le moment de regarder les yeux de ce soldat. Il vient tout de même de nous voler. Je crois surtout que tu es tombée amoureuse. Ginette est tombée amoureuse. Ginette est tombée amoureuse. T'as eu un coup de foudre dès le premier instant, n'est-ce pas ?
Ginette était toute rouge et ne se sentait pas très bien. Elle avait des papillons dans le ventre et la tête qui tournait.
C'est bon, il est parti. Rentrons. Papa, maman, vous êtes là ? Oh ! Mes parents ont disparu. Si ça se trouve, des soldats sont venus dans ma maison et ont emmené mes parents à la commandante Tour. Et le soldat de tout à l'heure est revenu chercher nos provisions. Oh ! Mes trois petits poussins ont même disparu. J'aurais dû les mettre dans ma poche ce matin avant de partir à l'école.
Quand je me suis retournée, Ginette avait disparu.
Mais où elle est encore partie ? Je n'ai plus qu'une seule solution. Allez, cherchez Paul.
Paul était le meilleur ami de Ginette. Je vais vous dire un secret, c'était aussi un peu mon amoureux. Lui au moins, il saurait quoi faire avec ses gros muscles. Il habitait à côté de chez moi.
Paul ! Paul, mes parents ont disparu. Ginette, je ne sais pas où elle est. Quand je me suis retournée, elle n'était plus là.
Paul a alors proposé de m'aider à chercher Ginette, car elle ne devait pas être bien loin, et après, on chercherait mes parents. Il était vraiment très calme, la personne idéale dans de telles situations.
Ne t'inquiète surtout pas, on va retrouver tes parents et Ginette.
Oui, merci. Dépêche-toi, Paul. On y va ?
Une fois dans la rue, nous avons aperçu Ginette et le soldat. Nous les avons rejoints.
Paul, oui, je vous présente Willy, le plus beau soldat allemand.
C'est vrai que ce soldat était beau et semblait tellement gentil. Il avait de tels yeux bleus qu'on avait envie de les lui voler. Il était aussi doux qu'un petit agneau. Il était tout le contraire des soldats de la commandantour.
Désolé de vous avoir volé la nourriture et l'eau, j'avais juste faim. Pardonnez-moi s'il vous plaît.
Je ne vous pardonnerai que si vous me rendez mes parents.
Mais de quoi vous parlez ?
Vous avez volé mes poussins aussi. Pourquoi les avez-vous pris ?
Louise, calme-toi, assis-toi, respire.
Je les ai pris car ils me rappelaient mon petit frère et ma petite sœur. Tenez, voici les poussins.
Willy sortit les poussins de sa poche.
Merci, je suis vraiment désolée de m'être énervée après vous. En plus, vous semblez très gentil. Mais alors, ils sont où mes parents ?
Je ne sais pas.
Retournons chez toi, Louise. Ils seront peut-être revenus.
Je me suis vraiment inquiétée. Cela ne faisait qu'une demi-heure que nous avions aperçu ce soldat devant la maison, mais j'avais l'impression que cette histoire durait depuis des heures.
Maman, papa, mais où étiez-vous partis ?
Nous étions au marché pour acheter des navets et des tampinambours. Pourquoi sembles-tu si affolée ?
Maman, papa, j'ai cru que vous ne reviendrez jamais, que les soldats de la commandantour allaient vous tuer. J'ai eu tellement peur si vous saviez.
Ma chérie, que fait un soldat allemand dans notre maison ?
Non, ne t'inquiète pas, c'est les nouvelles amies de Ginette.
Et voilà comment notre histoire s'est terminée. Ginette et Willy ont attendu plusieurs années après la fin de la guerre jusqu'en 1949 pour se marier. Quant à Paul et moi, après de nombreuses années, nous nous sommes enfin avoué notre amour. Nous avons toujours gardé l'habitude de prévenir nos proches lorsque nous partions au marché pour qu'ils ne s'inquiètent pas.
C'était Les Yeux Bleus, écrit et interprété par Cléo, Emma, Tilan et Clément.
Nous étions en 1944 et les Allemands venaient de quitter la France. Jean, Léonie et moi habitions tous les trois à une ferme, un peu éloignée du village de Saint-Joly. Le matin, pour aller à l'école, Jean passa nous prendre avec Léonie. Nous descendions à l'école à pied joyeusement. Nous nous connaissions depuis l'âge de 6 ans. Ce matin-là, nous étions à l'entrée du village. Il y avait une maison qui nous intriguait depuis plusieurs semaines. Nous nous sommes juste arrêtés devant, après la classe.
Écoutez, j'ai entendu des grincements.
Regardez, on dirait que ça vient de cette maison.
On va voir.
Ouais.
Non, je ne sais pas si nos mamans seront d'accord.
C'est pas grave, elles n'en sauront rien. On reviendra l'explorer avant le coucher du soleil.
Léonie a raison. Si nos mères ne sont pas d'accord, on va se faire gronder.
On s'en fiche. On entre. Oh, regardez ce qui est marqué sur l'écriteau. Léonie, tu lis.
Ne pas entrer. Danger de mort.
Ouh là 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 là. Ça fait peur. On entre.
Tu es fou. Tu n'as pas vu ce qui est écrit. Mais bon, je veux bien entrer quand même.
Jean, ta curiosité te perdra. On entre, mais si on se fait gronder, ça sera de votre faute.
On dirait que ça vient du grenier.
Ah ! Il y a trois bombes !
C'est à ce moment que Léonie n'a rien trouvé de mieux qu'à faire que tomber dans les pommes.
Vite ! De l'eau !
Moi j'ai une autre tactique, on va lui mettre des petites claques. Léonie revenait peu à peu à elle. Pratique ma technique, depuis le temps que ça me démangeait.
Regardez, il y a une croix gammée sur les bombes.
C'est les Boches qui nous ont fait le coup. Ils vont nous le payer.
Dites-moi que c'était un cauchemar, qu'il n'y avait pas trois bombes.
Non, ce n'était pas un rêve. Il y a bien trois bombes, Léonie.
Mais les bombes peuvent exploser à tout moment. Il ne faut pas les laisser dans le village.
Rentrons chez nous et rendez-vous ici à 22h30, quand tout le monde dormira.
Nous nous sommes retrouvés au point de rendez-vous à 22h30, comme on l'avait prévu. Tout le monde avait réussi à sortir sans que les parents nous voient.
Rentrons dans la maison abandonnée.
Tu es sûr ? On n'est pas obligé, tu sais.
Rentrons, les bombes pourraient exploser à tout moment.
D'accord.
Regardez ce vieux tapis. Il peut nous être utile pour déplacer les bombes. Attendez. Ouais, c'est bon. Il y a une botte de foin en dessous de la fenêtre. On pourrait les jeter dessus et ensuite les faire rouler jusqu'au champ du père Fora. Et comme ça, le village ne va pas exploser. On sera de véritables héros.
On va les jeter sur la botte de foin ?
Ça ne serait pas un peu dangereux, Jean ?
Pierre a raison. On va les lancer une par une, mais très minutieusement. Sinon, ça va faire boum ! Léonie et Pierre, vous allez les faire rouler jusqu'à la fenêtre. Et moi, je les ferai tomber sur la botte de foin. D'accord ?
C'est compris.
Compris. Nous sommes parvenus à faire tomber les trois bombes sans aucun problème. Une fois en bas, chacun de nous a fait rouler sa bombe. Dans une petite montée, Léonie n'a pas eu assez de force et la bombe est revenue en arrière et a écrasé ses jambes.
Aïe, 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 j'ai mal. Allez chercher quelqu'un pour vous aider à lever la bombe de mes jambes.
Mais on ne peut pas. Tout le monde dort à cette heure. On ne peut tout de même pas aller réveiller nos parents.
Et si nous allions toquer chez le père Fora, je suis sûre qu'il pourra nous aider. Il ne nous dénoncera pas aux parents. Une vraie tombe, ce père Fora.
Allez le chercher tout de suite. J'ai vraiment mal. Je ne vais pas tenir longtemps.
Père Fora, père Fora, père Fora, nous avons besoin de vous au plus vite.
Mais, tu n'es pas le père Fora ?
Ah ça, pour sûr que non. Je m'appelle Gustave, je suis le petit-neveu du père Fora. Mon grand-oncle est épuisé, il dort à point fermé. Donc vous avez besoin d'aide ?
Oui, oui, notre copine est coincée sous une bombe. Venez vite !
Quoi ? Une bombe ? Mais que faites-vous avec une bombe ?
Nous avons trouvé des bombes dans le grenier d'une maison abandonnée à l'entrée du village. Nous voulions...
Bon, assez discuté. Notre copine a besoin d'aide.
Jean, Gustave et moi étions devant Léonie. Nous étions paniqués. Léonie, quant à elle, était très calme. Nous étions en admiration devant son courage.
À trois, on soulève la bombe, d'accord ?
Ouais.
Un, deux, trois. Oh, Is ! Ça va aller, Léonie ? Ne t'inquiète pas.
Ça devrait aller, mais c'est qui celui-là ?
Je suis le petit-neveu du père Fora.
C'est une nouvelle recrue pour notre bande ?
S'il veut. Tu veux en faire partie, Gustave ?
Pourquoi pas ? Ce serait rigolo de faire partie d'un clan.
Léonie s'est vite remise sur pied. Solide, la voisine. Bon, maintenant, il faut déplacer la dernière bombe. On a caché les deux autres dans le champ de ton grand-oncle. Ça ne craint rien. Le père Fora n'y cultive plus rien depuis longtemps. Et c'est assez loin du village. Quand nous sommes arrivés chez nous, nos parents nous attendaient. Pas besoin de leur raconter nos exploits. Ils ne semblaient pas voir les choses. Ils ne semblaient pas voir de la même manière. Nous avons reçu la fessée de notre vie. Nos fesses s'en souviennent encore. Comment avait-il su ? Le père Fora nous avait vus en train de déplacer des bombes dans son champ. Et ils étaient allés le dire au maire. Le père Fora avait vu, nous avait vus en train...
Il faut que tu recommences toute la phrase quand tu fais une petite faute. C'est pas grave, hein, mais il faut reprendre.
Le père Fora nous avait vu en train de déplacer des bombes dans son champ et il était allé le dire au maire. Au final, le vieux bonhomme n'était pas muet comme une tombe et nous n'avions pas été vraiment les héros du village comme on l'espérait. N'empêche qu'à l'école, tous les copains étaient drôlement impressionnés par notre exploit.
C'était « Les héros de Saint-Joly », écrit et interprété par Evan, Léonie, Timéo, Ewen et Lucas.
Je m'appelle Jeanne. Marie, Henri et moi, nous nous rencontrions chaque matin sur le bord du chemin.
Nous allions jusqu'à l'école à pied. Il y avait 3 kilomètres. Nous rigolions bien tous les trois. Ce jour-là, c'était le 7 mai. Le 7 mai 1945. Salut Marie!
Salut Jeanne, salut Henri!
Allez, vous venez, on va à l'école.
Hé, regardez, c'est votre père qui passe en charrette.
À trois, on saute tous en même temps dedans. 1, 2, 3!
Ah! Marie, attrape ma main! Ouf, on a eu chaud.
Oh non, ma roue s'est fendue en deux. Descendez les enfants, j'ai une idée. Je vais dételer les chevaux. On va laisser la charrette ici pendant que je vous accompagne à l'école.
On pourrait mettre les 3 quarts-têtes sur le dos des chevaux?
Oui, mais vite.
Nous sommes arrivés ce matin-là en retard à l'école.
Entrez, vous êtes encore en retard. Cette fois-ci, j'en ai plus qu'assez. Vous allez pas avoir une punition.
Mais...
Vous allez écrire tous les trois 30 verbaux passés simples ce soir après la classe. Et que ça saute.
Nous avons pris nos places et la classe a commencé. Nous étions fâchés par la décision du maître. C'était vraiment pas juste. À la récréation, nous avons décidé de prendre notre revanche.
On se réunit ce soir dans mon grenier pour parler du maître.
Oui, mais à quelle heure?
Au coucher du soleil, une fois que nos pères seront rentrés. C'est vraiment pas juste qu'ils nous mettent des punitions. Il aurait dû nous écouter.
Le soir même, nous nous sommes tous réunis dans le grenier de Jeanne. Les parents n'ont rien vu. Ils ne nous ont même pas entendus quitter notre lit. On est vraiment trop forts.
On pourrait prendre des poussins et les amener à l'école pour se venger du maître.
Mais qu'est-ce qu'on va faire avec des poussins? Tu penses que ça va faire peur au maître?
Et si on renversait la bouteille d'encre du maître et que l'on mettait les poussins dedans?
Attention, il ne faudra pas se faire remarquer par le maître et les autres.
Faisons-le à la récré. Ça tombe bien. Demain, c'est notre jour de distribuer les cahiers pendant la récré, Marie.
Si le maître rentre à ce moment-là...
Moi, je vais le distraire. Je vais lui parler du problème de mathématiques de ce matin.
Mais où va-t-on en trouver des poussins?
Mon papa en a dans le poulailler.
Le lendemain, nous étions dans la classe en train de travailler. Il était 9h30. Les poussins n'avaient pas bougé d'une plume depuis que Jeanne les avait mis dans les poches de son tablier le matin même.
À la récréation, Marie et Jeanne sont restées dans la classe pour distribuer les cahiers. Comme prévu, je suis allée parler mathématiques avec le maître. Tout se passait comme sur des roulettes.
Jeanne, va renverser la bouteille d'encre, mais avant, donne-moi les poussins.
D'accord.
Allez, on dépose les poussins et on s'en va.
Nous n'avons même pas osé regarder derrière nous, tellement nous étions terrifiés. Quand nous sommes sortis de la classe, Henri était comme prévu en train de parler avec le maître. À la fin de la récréation, tous les élèves rentrèrent dans la classe. Ils aperçurent les 3 poussins tout couverts d'encre violette. Ils virent aussi les milliers de traces de pattes qu'ils avaient laissées sur les pupitres et les cahiers dans la classe. Nous rigolions chacun dans notre barbe. C'est à ce moment-là que le maire entra joyeusement dans la classe.
Monsieur l'instituteur, la guerre est terminée.
Les enfants, la guerre est terminée. Réjouissons-nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'encre et les poussins, mais ce n'est pas grave. Rentrez chez vous, annoncez la bonne nouvelle à vos parents.
Personne n'a jamais su qui avait renversé l'encre et apporté les poussins.
Ouf, nous avons jamais été punis pour cette très très grosse bêtise.
D'ailleurs, j'ai toujours gardé avec moi un de ces fameux cahiers d'école tout taché d'encre. Je crois qu'il m'a porté chance toute ma vie.
C'était La Vengeance des Poussins, écrit et interprété par Timothée, Thaïs, Lana et Enzo.
Ces fictions radiophoniques ont été créées dans le cadre du projet Une vie d'aventure avec l'école de Bozy, l'EHPAD La Bonheur de Bracieux et l'artiste en résidence Emmanuel Suarez. Les textes ont été enregistrés par Charles Jouteux de la radio Studio Zef. Nous remercions le Domaine National de Chambord, la Communauté de Communes du Grand Chambord, la région Centre-Val de Loire, est le programme Culture Santé porté par la DRAC et la RS Centre et la DLP 41 pour le prêt des Ideas Box.